L'histoire et l'identité d'Agios Nikolaos. Le nom d'Agios Nikolaos porte une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans, évoluant d'une ancienne puissance maritime à un bastion médiéval, pour devenir enfin la ville que nous connaissons aujourd'hui. Les racines byzantines. La ville tire officiellement son nom de la petite église à coupole de Saint-Nicolas, Agios Nikolaos, située sur la péninsule nord du port. Il s'agit d'un monument byzantin du 7e siècle, ce qui en fait l'une des plus anciennes structures encore debout dans la région. C'est un site d'une immense valeur historique, car son intérieur contient des fresques rares datant de la période antérieure au grand iconoclasme, une époque où l'art religieux fut largement détruit à travers l'Empire. L'identité antique. Bien avant d'être nommé d'après le saint patron des marins, le site était connu sous le nom de Lato Pro Camara. Selon les archives archéologiques de l'Éphorie des Antiquités, il s'agissait de la « porte de la mer » pour la puissante cité-état intérieure de Lato. Alors que de nombreuses cités minoennes et doriennes de l'arrière-pays furent finalement abandonnées, cet établissement côtier resta si vital pour le commerce qu'il conserva son importance jusqu'à l'époque romaine. L'influence vénitienne, Mirabello. Au XIIIe siècle, le nom de la ville changea de nouveau sous l'influence de l'Occident. Suite à la quatrième croisade, un amiral et pirate génois, Enrico Pescatore, reconnut l'avantage tactique des collines locales. Il y construisit une fortification massive appelée le Castello di Mirabello, ce qui se traduit de l'italien par « forteresse de la belle vue ». Bien que la forteresse ait été agrandie par la suite par les Vénitiens puis détruite lors du siège ottoman, le nom de Mirabello a survécu. Aujourd'hui, il reste le nom officiel de toute la province et de la vaste baie entourant la ville. La transition moderne. Pendant plusieurs siècles, durant la période ottomane, la ville fut largement inhabitée et connue simplement sous le nom de Mandraki. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que l'établissement permanent fut officiellement rétabli. À cette époque, les résidents choisirent de revenir aux racines byzantines de la ville, adoptant formellement le nom d'Agios Nikolaos en l'honneur de l'ancienne chapelle qui gardait le port depuis plus d'un millénaire. L'histoire d'Agios Nikolaos est un récit de survie stratégique, passant d'un puissant port antique à une forteresse déserte et, finalement, à un pionnier de la vie méditerranéenne moderne. L'ère de l'ancienne Lato Pro Camara. L'histoire de la ville commence officiellement aux périodes archaïques et classiques en tant que jumelle maritime de la cité intérieure de Lato. Alors que la ville principale de Lato était bâtie en haute montagne pour sa défense, Lato Pro Camara, signifiant « Lato à l'arche », servait de poumon commercial vital. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le centre administratif se déplaça des montagnes vers cette côte. Les preuves archéologiques confirment qu'il s'agissait d'une ville prospère et autonome, possédant sa propre monnaie et une influence significative tout au long de la période romaine. Le Moyen Âge vénitien et génois. Après l'ère byzantine, la ville devint un point central des luttes de pouvoir en Méditerranée. En 1206, le pirate génois Enrico Pescatore s'empara de la zone et construisit le Castello di Mirabello. La prise de contrôle vénitienne. Lorsque les Vénitiens prirent le contrôle de la Crète, ils reconnurent la forteresse comme l'un des ouvrages défensifs les plus importants de l'île. Les salines stratégiques. Sous la domination vénitienne, la ville n'était pas seulement un poste militaire, c'était un centre industriel. Les salines d'Elunda, situées à proximité, étaient un monopole officiel de la République, générant une immense richesse et nécessitant la protection constante du château. Destruction. La ville subit un coup d'arrêt majeur en 1537 lorsqu'elle fut rasée par l'amiral ottoman Barbarousse. Plus tard, pendant la guerre de Crète en 1646, les Vénitiens choisirent de démolir leur propre forteresse avant de la rendre aux Ottomans, laissant la zone largement inhabitée pendant près de deux siècles. La renaissance du XIXe siècle. La ville moderne fut refondée au milieu des années 1800. Suite aux révolutions crétoises contre la domination ottomane, des réfugiés d'autres parties de l'île commencèrent à s'installer autour du petit port de Mandraki. Ascension administrative. En 1904, en raison de son importance croissante et de son port supérieur, la ville fut officiellement désignée capitale de la préfecture de la City, reprenant le titre de la ville intérieure de Néapolis. Le projet du canal. Cette époque vit aussi l'ouverture littérale de la ville. En 1867, le gouverneur ottoman commença l'excavation pour relier le lac enclavé de Voulimeni à la mer, un projet qui modifia fondamentalement la géographie et les capacités navales de la ville. Le XXe siècle, un pionnier du tourisme. Agios Nikolaos occupe une place unique dans l'histoire moderne de la Grèce en tant que berceau du tourisme crétois. Alors que le reste de l'île restait largement agricole, les années 1960 virent l'ouverture des premiers hôtels de luxe ici. La ville devint un aimant pour l'élite mondiale, accueillant des personnalités telles que Jules Dassin et Mélina Mercouri. Ce virage officiel vers l'hospitalité a transformé l'économie locale et a servi de modèle pour le développement de toute l'île. Aujourd'hui, la ville est protégée par des lois d'urbanisme strictes supervisées par l'Éphorie des Antiquités, garantissant qu'à mesure qu'elle grandit, Les couches de son passé antique et médiéval restent préservées sous ses rues modernes. Lorsque nous nous promenons dans Agios-Nikolaos, vous verrez que les monuments ne sont pas seulement des attractions touristiques. Ils sont les archives physiques de l'évolution de la ville, protégées par le ministère grec de la Culture. Le lac Voulimeni. Le point focal absolu de la ville est le lac Voulimeni. Ce plan d'eau circulaire était un lac d'eau douce enclavé jusqu'en 1867, lorsque le gouverneur ottoman Adosid Pacha initia le creusement d'un canal pour le relier à la mer. Le projet fut finalement achevé par des ingénieurs français en 1907. Selon les données géologiques officielles, il atteint une profondeur de 48,8 mètres, ce qui est extraordinaire pour son petit diamètre. Dans la mythologie, il est mentionné comme le lieu de baignade sacrée des déesses Athéna et Artémis. Aujourd'hui, les falaises entourant le lac offrent une vue panoramique sur l'aménagement urbain unique de la ville. Le musée archéologique. Ce musée est officiellement classé parmi les plus importants de Crète. Il a été établi pour abriter le grand nombre de découvertes de la région de la City. Sa pièce la plus célèbre est la « Déesse de Myrtos », un vase à libation minoen vieux de 4500 ans en forme de femme tenant une cruche. Le musée contient également le trésor d'or de Moschlos, une collection de bijoux complexes provenant d'un cimetière minoen précoce, et le crâne unique d'un jeune athlète romain couronné d'une couronne d'or, trouvé ici même dans l'ancienne cité de Lato Procamara. La chapelle byzantine d'Agios-Nikolaos. Située à la pointe nord du port sur la péninsule de Nysi, c'est ce bâtiment même qui a donné son nom à la ville. C'est une petite église à coupole du 7e siècle, rare survivante de la période iconoclaste. En raison de son âge et de son importance historique, les fresques intérieures sont sous protection stricte. Elles représentent certains des plus anciens exemples subsistants d'art chrétien en Méditerranée, peinte à une époque où la ville n'était qu'un modeste avant-poste byzantin. Kytroplasia et le musée d'art populaire. Kytroplasia. Cette place en bord de mer porte un nom ancré dans l'histoire commerciale du 19e siècle. C'était le point d'exportation officiel du cédra, Kytros, un fruit qui fut autrefois la colonne vertébrale de l'économie locale, expédié depuis cet endroit précis vers les communautés juives de toute l'Europe pour la fête des tabernacles. Musée d'art populaire. Situé à côté du lac, ce musée préserve le patrimoine immatériel de la Crète orientale. Il abrite des collections officielles de broderies de style byzantin, de costumes traditionnels et de textiles tissés à la main propres à la région de Mirabello. Les îles d'Agios-Hippante et Micronésie. Au large de la baie, ces deux îlots ne font pas seulement partie du paysage. Ce sont des réserves nationales de faune sauvage. L'accès au public y est strictement interdit par la loi fédérale car ils servent de sanctuaires protégés pour le cri-cri, la chèvre sauvage crétoise. En isolant les chèvres sur ces îles, l'État grec a réussi à préserver la pureté de l'espèce, qui vit en Crète depuis l'ère minoenne. La corne d'Amalthée. Au bord du port, vous trouverez la sculpture moderne de la corne d'Amalthée. Ce monument fait référence au mythe crétois officiel de la nymphe chèvre Amalthée, qui allaita le nourrisson Zeus dans la grotte du Dictée. Selon la légende, Zeus cassa accidentellement l'une de ses cornes, qui devint alors la « cornucopie », le symbole de l'abondance éternelle et de la fertilité de la terre crétoise. Pour compléter notre introduction à Agios-Nikolaos, j'aimerais partager quelques faits et chiffres spécifiques qui illustrent à quel point cette ville est unique dans le paysage méditerranéen. Le lac, sans fond, fait versus légende. Alors que la légende dit que le lac est sans fond, l'autorité statistique hellénique et les récentes études géologiques racontent une histoire beaucoup plus précise. L'étude de 2000. Pendant plus d'un siècle, la profondeur officielle était enregistrée à 64 mètres, sur la base des mesures du voyageur naval britannique Thomas Pratt. Cependant, une étude sous-marine détaillée de l'Université d'Athènes en 2000 a corrigé cela à 48,8 mètres. Le phénomène vertical. Ce qui rend cela fascinant, c'est le ratio. Le lac ne mesure que 137 mètres de large, ce qui signifie que sa profondeur représente près d'un tiers de sa largeur, une caractéristique géologique appelée doline, ou gouffre, que l'on ne voit presque jamais au centre d'une ville animée. Lien sismique. Il existe un enregistrement officiel du tremblement de terre d'Amorgos en 1956, où l'eau du lac a commencé à bouillonner et à déborder, alimentant les mythes urbains selon lesquels il serait relié au volcan de Santorin. En réalité, les scientifiques attribuent cela au fait que le lac est situé directement sur une ligne de faille locale. Démographie et climat. Agios-Nikolaos est le cœur administratif de la Crète orientale. Population. Selon le dernier recensement de 2021, la ville elle-même compte une population permanente d'environ 13 605 habitants, bien que la municipalité élargie atteigne près de 28 000 personnes. Cependant, pendant les mois de pointe estivale, la municipalité d'Agios-Nikolaos rapporte que la population grimpe à plus de 80 000 personnes. Microclimat. L'Observatoire national d'Athènes note que cette région bénéficie d'un climat particulièrement sec avec une humidité très faible par rapport à la Crète occidentale. Cette « chaleur sèche » est l'une des principales raisons pour lesquelles elle a été choisie pour le tourisme de santé et de bien-être dès les années 1960. Une découverte mondiale. La découverte de la ville comme station balnéaire internationale n'est pas accidentelle. Dans les années 1960, elle a attiré l'attention de grands réalisateurs de cinéma. Jules Dassin et même les producteurs de Walt Disney furent parmi les premiers à filmer dans la région, faisant découvrir la baie de Mirabello à un public mondial. Cela a conduit la ville à être la première en Grèce à bénéficier d'une impulsion gouvernementale planifiée vers un tourisme haut de gamme, bien avant l'apparition des hôtels de masse ailleurs. Point d'intérêt remarquable. Les pavillons bleus. La ville est un leader permanent en matière de qualité environnementale. Année après année, ses plages, comme Kytroplasia et Amoudi, reçoivent officiellement le pavillon bleu européen, une certification stricte pour la pureté de l'eau et la gestion environnementale. La marina. Construite à l'extrémité sud de la ville, la marina d'Agios Nikolaos est officiellement l'une des mieux organisées de Grèce. Elle a une capacité de 255 navires et sert de port d'hivernage majeur pour les marins internationaux traversant la Méditerranée, maintenant le caractère cosmopolite de la ville même hors saison. Le marché du mercredi. Si vous êtes ici un mercredi, vous verrez le marché fermier officiel, Laiki. Ce n'est pas seulement pour les visiteurs, c'est une tradition séculaire où les producteurs locaux des villages de montagne de la City descendent du miel, des herbes et des fromages qui sont encore produits selon des méthodes traditionnelles et non industrielles. Cette ville est un exemple rare d'un lieu qui a conservé son statut officiel de capitale tout en évoluant vers une station balnéaire de classe mondiale, le tout reposant littéralement sur des milliers d'années d'histoire enfouie.